Transistor.
Vous écoutez Transistor à l'émission sur l'autre radio. Pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir d'accueillir un duo de choc, Nicolas et Fred Boinard. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Nico.
Les deux copilotes donc du navire Archimède, qui cela ne vous aura pas échappé, chers auditeurs, publiera son prochain album le 1er avril prochain, avec à la clé deux concerts au Théâtre de Laval les 8 et 9 avril. Je me trompe pas, c'est bien ça.
C'est bien ça.
J'ai bon. Et nous aurons l'occasion d'y revenir, bien sûr, sur ce nouvel album, ce quatrième disque qui est baptisé Mehari. Mais pour l'occasion, nous chamboulons le principe habituel de l'émission qui veut que nos invités viennent avec une sélection musicale compilant leurs coups de cœur, leurs disques de chevet, etc. Non, là, on a l'immense bonheur, l'immense honneur de vous dévoiler en avant-première quatre titres du nouvel album d'Archimède, dont une chanson que vous nous ferez le plaisir d'interpréter en live. On vous laisse découvrir tout ça, on garde un peu de surprise. Mais avant, on garde quand même une habitude qui veut qu'on commence cette émission par une nouveauté. Et en la matière, on fait difficilement plus frais. Je vous propose de découvrir une chanson qui figurera sur le premier EP d'un jeune groupe que vous connaissez, je crois, Nico et Fred, un groupe qui s'appelle Phébus.
Ouais, on les connaît bien.
Et voilà, c'est un quartet composé de très jeunes musiciens, tous étudiants, qui ont enregistré il y a tout juste quelques jours leur premier disque en studio avec l'illustre Amaury Sauvé. Voici donc un avant-goût tout chaud, sorti du four de leur recette plutôt savoureuse qui mixe grosse guitare rock et langue de Molière. Attention, avant-première oblige, il s'agit d'une version démo, une mise à plat comme on dit dans le jargon, avant mixage et mastering. Mais l'essentiel est là, Phébus, le meilleur des mondes.
Culture de chaleur.
Voilà, on l'écoute jusqu'au bout. Allez. Jusqu'au bout.
C'est pas une phare radio du tout, ça.
Voilà, donc c'est tout frais, comme je disais tout à l'heure. Ça vient juste de sortir de studio. Ça demande encore à être mixé, à être masterisé, à être peaufiné. Mais ça donne une idée, un avant-goût de ce que sera le premier disque de Phébus. Comme on le disait juste avant, vous connaissez ces petits jeunes cocos, ces jeunes cocos. Et je vous voyais écouter ça avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'attention. Petit mot sur ce groupe.
On les a découverts, nous, il y a déjà 4-5 ans, en fait.
Moi, je les ai découverts avant les émergences, en fait.
Ouais. Ils nous écrivaient, en fait, ils venaient nous voir même en concert, et ils sont venus à la Périne là, quand on avait fait notre showcase. On les a vus au concert, ils ont fait notre première partie à Montenay. Et je trouve que c'est un jeune groupe qui se bonifie avec le temps. Là, je trouve que voilà, ils prennent un virage un peu plus rock'n'roll qu'à leur début. Je pense que ça leur va bien.
Aussi, ça leur va plutôt
la
bien.
Réverbe à donf sur la voix me semble aussi indiquée.
Bon goût.
Ouais. Moi, ce que je viens d'entendre, évidemment, c'est vraiment une mise à plat. Ouais. Mais ça me plaît bien. Ouais.
C'est de bon augure. Ouais.
Alors, c'est un groupe qui revendique clairement l'influence de Archimède. J'ai déjà entendu dire ça et l'écrire. Est-ce que ça doit faire bizarre, non, d'avoir comme ça des. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des groupes qui se revendiquent de l'influence d'Archimède ?
Sans vieux, déjà ringard. C'est pour ça qu'on fait des medley maintenant.
Bientôt le best-of d'Archimède.
Non, c'est plutôt plaisant. Je pense qu'on a toujours été, excepté sur le premier album, un peu plus pop de culture. Ils ont probablement une culture un peu plus rock et un peu plus.
Sent qu'ils écoutent Led Zeppelin, AC/DC.
Voilà. Ce qui n'est pas notre cam, nous, à la base, on est plus les. Tu parlais des Smiths là, dans ta playlist, on est plus Beatles, Kings, et puis Revival, Britpop des années 90. C'est plus sage chez nous.
C'est dans le son, pas forcément. C'est plus dans l'énergie vocale ou. C'est plus un flegme anglais dans le déroulé des paroles que là, ils sont à la limite de Noir Désir, même dans le côté scandé des couplets.
Dutronc aussi, ce qui est pas intéressant.
Ok, Dutronc, ouais, t'entendais ça aussi, effectivement.
Enfin, tu peux sur les réverbes de voix et la manière de scander, de Dutronc, du responsable, ce genre de rythmique, toute proportion gardée, bien sûr, mais ça peut évoquer.
Un peu plus énervé.
Est-ce que ça vous arrive de croiser comme ça des groupes qui citent Archimède parmi leurs influences? Est-ce que ça s'est déjà arrivé à d'autres moments où il y a d'autres groupes?
C'est vrai que ça paraît un peu
à la fin des concerts
tard,
souvent,
mais on vient souvent nous donner des disques et puis même ça arrivait dans la presse des groupes vendéens et finalement c'est plus rarement des groupes de Laval ou de la Mayenne que des groupes des alentours. Ils hésitent moins à revendiquer éventuellement l'influence d'Archimède quand ils ne sont pas du département.
Ouais. Mais c'est, on fait partie de leurs influences, on n'est pas une influence, influence. Quoi, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui nous demandent aussi des premières parties, on est très très sollicités là-dessus.
De jeunes, putain, on parle vraiment des vieux cons. Quoi.
De jeunes groupes. Ouais. Non mais on a tous fait ça, nous les premiers.
Est-ce que sur la route aussi vous croisez des groupes qui quelque part seraient un peu cousins de ce que vous faites, où vous dites tiens là il y a vraiment une proximité, il y a quelque chose, on est un peu sur le même terrain, on est un peu sur la même
pas beaucoup malheureusement.
Marshmallow quand même.
Marshmallow non mais c'est un putain de groupe qui trouve pas le succès qu'il mériterait quoi. Marshmallow c'est un groupe de Clermont-Ferrand. Voilà, les Clermontois ont préféré Cocoon à Marshmallow. C'est une dramatique erreur. C'est la vie, c'est comme ça, je les plains. À Lyon aussi, il y avait un groupe qui s'appelait Déjà Vu, qui était bien, pas mal. Puis il y a Fred Gymnase qui a fait des albums pour Jean-Louis Murat, qui est un mec vraiment pop, qui est notre bassiste. Pas sur la prochaine tournée, parce qu'il part avec Peter Van Poel, mais lui, c'est un mec qui a une culture très pop franglo-saxonne. Quoi. Il chante en français avec des influences très british. Quoi. Donc voilà, il y a quelques groupes, mais un fer de lance, nous, à part Dutronc, je trouve qu'est vraiment le cul entre deux chaises, entre la France et l'Angleterre, et c'est d'ailleurs pour ça que des artistes comme Miles Kane revendiquent l'influence Dutronc. À part lui, je vois pas en France qui fait ce type de musique, quoi. Parce que dès qu'on parle après de Renaud ou de Brassens ou d'autres,
on est plus dans la chanson.
Et Dutronc arrivait à être pop rock avec du français.
Surtout au début, ouais.
Ouais.
Et au début, en fait, quand il s'agissait de définir, de positionner ce que la musique d'Archimède, en fait, vous citiez souvent un groupe anglais, justement Oasis, par exemple. Enfin, c'était une des influences. Mmh. Et puis de l'autre côté, effectivement, vous citiez des gens comme Dutronc. Voilà, on est toujours, je crois, dans cet entre-deux-là, en fait, entre une force mélodique pop à l'anglaise, à la très british. Et une finesse d'écriture à la française qui appartient vraiment aussi à notre culture musicale française. Voilà. Vous êtes toujours entre ces deux pôles-là aujourd'hui.
Ouais, on trace le sillon de. Ouais. Mais en fait, c'est pas calculé, quoi. C'est notre truc. Après, le mariage des deux, il est jamais facile parce que c'est beaucoup plus simple de chanter anglais dans la musique qu'on écoute, en tout cas.
Bien sûr.
Et dès l'instant où il faut écrire en français dessus, là, ça devient plus compliqué, quoi. Donc là, c'est Nico qui s'en charge. Mais la rencontre des deux est pas simple.
La mélodie et du texte est pas évidente français. Ça demande beaucoup de boulot. C'est vraiment au chausse-pied pour bien rentrer dans la métrique, dans l'euphonie de la chanson. Ça prend parfois un temps fou, mais le résultat, il est intéressant, il est presque héroïque des fois, je dis, de réussir à faire sonner une musique d'obédience bretonne en français, quoi. C'est vrai. Enfin, je trouve que l'enjeu vaut la chandelle, quoi.
Ouais. Paul Naref aussi a un peu fait ça.
Paul Naref, ouais, c'est un autre, pas du tout comme Dutronc, mais c'est un autre génie mélodique qui chante en français, qui arrive à trouver l'équilibre, l'euphonie, et c'est remarquable.
Christine on the Queens aussi à un autre niveau, à une autre époque, avec un autre style de musique, en fait, arrive à bien faire ça, je trouve aussi.
Bah, surtout quand elle reprend Christophe. non, mais on aime bien aussi Christine and the Queens. Queens ou Queen, Queen
hein. The Queens.
Non, mais, on peut saluer déjà le parcours, quoi, parce que c'est hallucinant quand tu vois qu'elle est à la une du Time. Enfin, dans le monde, elle est saluée, quoi. C'est
jusqu'à une certaine époque, chanter en français, c'était un peu une tare, quoi. C'est-à-dire difficile de sortir, en tout cas, du giron français. Aujourd'hui, avec des gens comme ça, on se rend compte que c'est possible. En tout cas, elle donne une voix.
En fait, c'est la variété française, quoi. On est souvent, quand on chante en français, on est assimilé à de la variété. Et en France, c'est un peu péjoratif, la variété. Ouais. C'est un peu.
Avant Christine and the Queens, c'est Stromae aussi qui a apporté vraiment quelque chose, un renouveau. Moi, c'est un artiste que j'aime bien.
Mais quand tu vois des Souchon, des Cabrel, des mecs qui sont dans la variété française, quand tu vois les textes de Souchon ou de Renaud, il y a vraiment des grandes pensées, des superbes textes, quoi. Donc on est effectivement dans la variété, mais c'est un peu péjoratif, ce terme-là, quoi.
Oui, bien sûr, carrément. Ouais. Qu'est-ce qui prime dans une chanson d'Archimède ? Alors je dis pas forcément qu'est-ce qui est plus important que l'un ou l'autre, mais qu'est-ce qui démarre, en fait ? Est-ce que c'est le texte qui va en fait donner la couleur de la chanson, qui va donner le ton de la chanson, ou est-ce que parfois c'est l'inverse, c'est une mélodie que tu trouves à la guitare Fred et qui va inspirer Nico, voilà, comment ça se construit habituellement? Il n'y a peut-être pas de schéma non plus.
Il y a trois schémas.
Bah, plutôt deux.
Il y en a deux principaux, des fois il y a la troisième
voix.
Ouais. La première, c'est... une mélodie qui vient en gloubi-boulga chantée au yaourt. Et Nico, je lui file ça et il se démerde pour rentrer un texte français. Donc c'est là que c'est au chausse-pied parfois, parce qu'il faut quand même suivre la mélodie, et même si on s'accorde bien, quoi. Jamais je lui dis tu bouges pas. Mais
je respecte au maximum sa métrique initiale quand même.
Mais ça peut bouger quand même.
Mais j'ai fait en sorte de coller vraiment aux rimes quand tu me files un yaourt. C'est important de tomber.
Et puis au pied, en fait, au nombre de pieds, quoi.
Oui, voilà.
C'est surtout ça. Ouais.
C'est un instinct. Quand tu jettes un yaourt, il faut que le français colle à peu près au yaourt, quoi. Tu vas sur Rue de la Joie.
Mais plus ça va et plus mes yaourts, quelque part, sont francisés.
Ouais, c'est le métier qui rentre, ça.
parce qu'au début, t'es là.
mais j'arriverai jamais.
Ouais, et Nico, il arrive derrière. Il dit putain, mais attends, laisse tomber, quoi. C'est super compliqué. Et c'est compliqué, c'est réel. Quoi, c'est une vraie complication. Donc
des fois t'as pas excuse-moi je te coupe Fred, on va passer à la deuxième parce que t'as parlé de la première. Des fois t'as pas l'envie et pourquoi pas d'ailleurs de chanter en anglais sur certains refrains, ou de glisser de l'anglais comme en fait on voit que pas mal d'artistes aujourd'hui n'hésitent plus à faire ça, quoi, en fait.
Il l'a fait sur Je singe le Monkey.
Oui, ouais, il y a le Monkey.
Sur Sa Fly Away.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Non,
c'est
sur
vrai.
Je t'aime low cost.
Oui, bah voilà, t'as répondu.
C'est des emprunts, mais tout un refrain en anglais, j'ai le sentiment que ce serait un peu une facilité. J'essaie au maximum de travailler le français et de le rendre phonique. Après,
ça, c'est son point de vue. Il faut pas.
Oui, non, je critique pas ceux qui le font. Julien Doré le fait très bien. Il a des refrains en anglais, des couplets en français.
Et ceux qui chantent en anglais aujourd'hui, dans les groupes actuels, ils disent pas des conneries, quoi. Parce qu'ils savent bien s'exprimer en anglais.
Ouais, pas tous, hein. Mais non, quelques-uns, mais bon.
Étant donné que le niveau d'anglais monte faiblement, certes, mais monte dans la population française, il peut peut-être moins chanter de conneries, effectivement.
Je pense que on parlait de Christine and the Queens, je pense qu'elle serait pas saluée parce qu'elle a quand même des textes anglais aussi, hein. Oui. À l'international, si elle chantait.
De toute façon, moi, je chante anglais comme une burne. je maîtrise mal la langue.
Il parle anglais comme une burne.
J'ai pas le choix.
Ouais, j'ai peut-être une prédisposition pour le français, mais doublée d'une incurie, d'une incompétence farouche pour la langue anglaise. Donc voilà, tout confluait vers ce choix de chanter en français.
Pour tout te raconter, à l'aéroport, on lui dit boarding. Lui, il lève son chapeau, il dit bonjour.
Ouais, mais non, mais c'est arrivé une fois. Ouais. J'avais pas compris.
C'est pas une connerie en plus.
Voilà. Non, on était mort de rire.
Non, mais j'avais pas compris. C'était un accent. T'as mis au couteau.
Voilà. Donc voilà, la première voix, c'est ça. La deuxième, c'est Nico qui vient avec son texte chanter, parce qu'il est mélodiste aussi, il trouve des bonnes mélodies chantées.
D'accord.
Sur le texte
déjà
tout écrit. Il a l'air de la mélodie et charge à moi avec lui de trouver les accords, parce qu'en plus souvent il a l'idée de certains accords.
Tout le monde s'y flotte en fait.
On travaille tous les deux autour de ça.
Et puis la méthode de Claude François. Je sais pas si c'est pas une influence, mais Claude François écrivait avec tout le temps une mélodie. Et Anaïs aussi.
Michael Jackson aussi, j'imagine.
Oui.
C'est mélodiste.
C'est-à-dire, moi, je suis pas instrumentiste, mais mélodiste. Je trouve des airs de voix. Voilà. Mais je propose jamais des airs de voix, évidemment, sans le texte, parce qu'il faut pas non plus déconner. Ouais. Donc, c'est parfois quand j'écris un texte, j'ai un air de voix. Et la troisième voix, avec un E possible, c'est quand je trouve que j'ai un texte amusant, drôle, comme par exemple Fils d'eux, qu'on chantera à la fin de cette émission, mais j'ai pas vraiment de mélodie ou j'ai une mélodie qui me plaît pas. Ouais. Alors là, je lui donne le texte tout fait et je lui laisse essayer de trouver quelque chose. Cette voix-là est beaucoup plus rare.
C'est plus
finalement
rare.
On a fait deux ou trois titres sur l'ensemble du répertoire.
D'accord.
Mais le plus souvent, voilà, on se partage. Soit c'est Fred qui me file un yaourt clé en main et moi je le transforme en français, soit je crée j'ai une mélodie avec le texte et voilà.
Ça ne dit rien. Il y a pas de règle en fait.
Voilà. Et lui aussi a le droit évidemment d'émettre une réserve sur certains mots, sur certains choix, bien sûr. Il m'a fait réécrire d'ailleurs Rue de la Joie. Non, c'est pas celle-là.
Non, Andaï.
Sur laquelle tu m'as fait suer. Ouais. Ouais. Mais oui, évidemment, il faut qu'on trouve vraiment l'équilibre et une satisfaction synalagmatique.
Oui, il faut que tout le monde s'y retrouve. Non, mais il faut que tout le monde s'y retrouve. Ouais. Même si moi, je chante pas, je suis pas l'interprète principal du groupe, il faut que le propos tenu me...
Tu l'assumes.
Parce que je suis quand même sur la pochette, je suis le compositeur, le musicien principal. Donc voilà, il faut qu'on soit tous les deux embarqués dans le même navire.
C'est un choix collectif, il y a un compromis, ou en tout cas, il y a une validation commune.
Voilà. Ouais. Mais c'est bien qu'on travaille que à deux, parce qu'à cinq, je comprends pourquoi des groupes de 4, 5, 6 split. Il y a un moment, ça doit être un peu la foire d'empoigne.
C'est l'art du compromis, le groupe, c'est évident.
C'est ça. Nous finalement, ayant les mêmes influences et ayant été biberonnés aux mêmes influences, aux mêmes sources musicales par notre père, nos parents et tout, ça va assez vite en fait.
On trouve toujours un terrain d'entente.
Y a rien qui ressemble plus à un Nico Boinard qu'à un Fred Boinard, quoi, grosso modo.
mais si, mine de rien, en fait, moi je vais plus composer en termes d'air de voix, je vais plus être sur du binaire ternaire, des trucs un peu du tronc, un peu et ça fly, ce genre de truc. Fred, il va être plus partir à la guitare et ça va plus donner des chansons comme Les Petites Mains. Il va plus être dans la rythmique et moi dans la mélodie un peu chantée. Quelqu'un qui voudrait vraiment se pencher sur l'œuvre verrait un peu.
Un peu comme Lennon McCartney.
Si tu t'amuses à regarder.
Je le dis très humblement.
Si tu regardes les crédits des albums, les titres en fait où c'est ternaire, comme dit Nico, c'est poum, poum, clac, poum, clac. Où c'est comme ça, eh bien, c'est principalement lui qui est arrivé avec sa mélodie. Parce qu'il pose son chant facilement sur le texte.
Dans les quatre chansons que tu feras écouter ce soir, il y en a deux où Fred vient avec un guitare clé en main à la base. Guitare voix, yaourt clé en main. Et deux où j'arrive avec un texte chanté.
Donc, tu vois, justement, la première chanson qu'on va écouter qui ouvre votre album, Je singe le monkey, justement, cette chanson-là, qui l'a amenée en fait? Comment elle est née?
C'est Nico.
À la base, ouais, j'ai eu la mélodie avec le texte.
Et elle est paternaire, donc comme quand on dit non, que
non,
des conneries.
Non, mais ça fait partie de...
C'est le contre-exemple qui vient.
Ouais, voilà. Non, mais c'est comme Bye Bye Bayer. C'est une mélodie que j'avais eu aussi. J'aime bien ces rythmiques rampantes à la Oasis, quoi. Ça me plaît bien. Ou à la Stone Roses.
Donc trêve de bavardage, on écoute ce premier titre et on en reparle tout de suite après.
Bêtise humaine et pandémique, on a perdu tout sens critique, on ne pense qu'à la chaîne, cliché, pensif, rengaine. On voudrait bien mettre sur orbite tout ce qui désert, bifurque, évite les tartes à la crème, cliché, pensif, rengaine. Les mêmes totems à duper, les mêmes aspines à bouder, opinion standardisée, méta commentaire balisé, régression mondialisée, partout même goût, même ciné, primate lobotomisé, bientôt désalphabétisé. Cher singe le manqué, tu singe le manqué, on singe le manqué, tout le monde singe le manqué. Singe le manqué, tu singe le manqué, on singe le manqué, tout le monde singe le manqué. On a les dirigeants qu'on mérite, on se les coltine en mode repeat, troll de vie qu'on mène, métro, boulot, problème. On ne sait même plus bien qui arbitre, on grimace de subir les mêmes pitres, on joue le jeu quand même, on rame, on trime, on peine. Cher singe le manqué, tu singe le manqué, on singe le manqué, tout le monde singe le manqué. Cher singe le manqué, tu singe le manqué, on singe le manqué. Singe le manqué.
Premier titre de l'album de Archimède, Je singe le monkey. Un mot sur ce titre et son sens, c'est qui le monkey?
Le monkey, vous avez bien compris, enfin tu as bien compris que c'est un jeu de mots, quoi. J'imite, j'imite le singe. C'est une chanson un petit peu sur le, comment dire, pas la décadence, mais on n'est pas toujours très très finaux dans nos réflexions. On est souvent grégaire dans nos manières de penser, dans nos goûts, dans nos manières de voter, même quand on voit ce qui se passe aux États-Unis et ce qui risque d'arriver en France. Donc on a tendance comme ça, plutôt que d'évoluer, de retourner un peu vers un côté primate, vers un côté balourd, vers un côté indigent de l'esprit. Et voilà, m'est venue cette formule, un peu une punchline, quoi. Je singe le monkey, j'imite le singe dans ma manière de penser. Je ne grandis pas à penser bêtement. Voilà. C'est l'idée générale.
C'est une vision un peu noire, quoi, de, du monde actuel. Forcément un peu caricatural, mais...
Oui, après, on avait peur que ce titre il soit un peu postural, musicalement, dans le chant, dans son texte et tout. On a essayé de trouver un équilibre Beatles et tout. Et en même temps, ce qui est rigolo, c'est que nous-mêmes, on singe. En fait, il y a une espèce de mise en abîme parce que nous-mêmes, dans la production, on singe un peu ce qui a été fait aussi.
Ah oui,
on singe un peu les Beatles à fond.
Ouais.
La trompette fait écho elle-même sous forme de mise en abîme au thème. Quoi. Nous aussi, on imite, on est des imitateurs. De toute façon, on n'est jamais que des imitateurs. N'importe quel créateur est, malgré lui, un imitateur. Sauf... quelques rares exceptions de très grands écrivains ou des génies.
Oui,
Mais nous, on n'est pas des génies, on a juste un peu de talent.
Est-ce qu'on peut y voir aussi un peu une... Enfin, on pourrait y voir une critique de la mondialisation quelque part. Enfin, cette idée que finalement, par le flux d'infos que tout le monde reçoit, par la circulation très rapide des objets, des modes, que finalement toutes les villes se ressemblent, toutes les musiques se ressemblent.
C'est ce que j'écris dans le bridge, régression mondialisée, opinion standardisée, méta-commentaire balisé, on lit tout le temps les mêmes choses, c'est les mêmes balises, les mêmes repères, les gens ont... c'est ce qu'on appelle la meute sur internet, quand il y a quelqu'un qui est pris en grippe, il y a soudain une espèce de mode grégaire, de modalité grégaire dans l'expression dont j'ai voulu précisément traiter dans cette chanson, quoi.
Est-ce qu'on peut parler un peu plus globalement de ce quatrième album? D'ailleurs, pourquoi ce titre-là, Mehari? C'est peut-être en lien avec une chanson en particulier, j'imagine.
Non. On donne jamais de nom de chanson à nos albums.
On aimerait bien, mais ça marche jamais.
Non, mais ça pourrait être, sans donner le nom d'une chanson, mais un mot qui est cité comme ça dans une chanson et que vous avez envie de mettre en avant. Toujours des noms d'albums très courts. Toujours un mot.
Et toujours en trois syllabes.
En trois syllabes.
Ah ouais, d'accord. Ouais, Archimède, Trafalgar, Arcadie, Mehari.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ah, on est des psychorigides, en fait.
Non, en fait, ce titre, c'est Nico qui l'a trouvé. L'album, il a été fait dans la joie, dans la bonne humeur, vraiment avec des copains. On s'est retrouvé vraiment entre potes à enregistrer à Besançon. Et on s'est vraiment marré. Donc, il y avait un côté solaire, amusant. Et le disque, il s'en ressent, quoi. Tous les titres... Enfin, presque tous les titres, il y a une forme de joie, de légèreté. Celle qu'on vient d'écouter, elle est un petit peu plus noire.
Mais il y a un détachement malgré tout.
Musicalement, c'est des accords majeurs. Enfin, voilà, c'est.
C'est ça. Même si le propos peut être un peu sombre ou un peu noir, effectivement, derrière la musique vient. Amener une sorte de distance aussi.
Exactement. Et puis, en plus, c'était la voiture que possédait notre oncle et il nous a baladé quand on était gamin. D'accord. Il a baladé mes enfants dedans. Ouais, voilà, il y a un côté. La Mehari appelle, de toute façon, tout de suite, le mot Mehari, tu vois une voiture en plastique sur les bords de mer, sur une plage ou autre.
On voit quelque chose.
Un côté solaire, un côté vacances, un côté joie.
Un côté débraillé aussi. Voilà. L'album, il est un peu débraillé. Il n'y a pas, à part dans ce titre qu'on vient d'écouter pour le coup, mais il n'y a pas énormément de fioritures. Non. Et puis il y a un petit côté rétro aussi dans le son sur certains titres, donc Mehari collait aussi pas mal.
Et comment vous situeriez ce quatrième disque par rapport au précédent? Est-ce que souvent on compare entre le disque qu'on vient de sortir à celui d'avant, aux autres? Dans quelle évolution? Est-ce qu'il s'inscrit dans une tendance, dans une évolution de votre écriture, de votre façon de faire de la musique? Comment vous le situeriez par rapport à tout ça?
On y a mis autant de soins que pour les précédents, ça c'est sûr. Beaucoup de temps passé sur les textes et les mélodies. Je pense qu'il est plus solaire, d'où le nom encore une fois, Mehari, que le troisième notamment. Dans le troisième, on avait fait quelques balades comme Dis-le-nous, comme Au marché des amandiers, comme Le grand jour, où vraiment on abordait des thèmes un peu douloureux, un peu chagrin, un peu plus en creux, comme la difficulté quand on habite en province de se revendiquer homosexuel, où on avait fait une chanson dans Le grand jour qui traitait de la maladie des jeunes enfants dans les hôpitaux, les hospitalisations de longs séjours. Donc c'est un album
plus grave.
Je dirais plus profond, voilà, c'est exactement le mot, plus grave.
Plus grave, ouais. Mais c'est des photos de notre vie en même temps. Un album, c'est 2 ans de vie. En fait, on est des personnages publics, mais il n'y a rien de plus privé que ce qu'on écrit et que ce que Nico écrit finalement. Parce que Le grand jour, c'est des réminiscences d'événements qui sont arrivés dans nos vies. de personnes plus ou moins proches qui sont restées à l'hôpital
forcément
des années.
Forcément la vie qui te pousse à écrire,
et quelquefois,
à donner une couleur.
C'est 15 ans ou 20 ans après que ces choses elles ressortent. L'album Trafalgar, il était plutôt enjoué, amusant, on sortait d'une très grosse tournée, donc on a eu envie peut-être, inconsciemment, je ne sais pas si c'était conscient, mais de revenir à des choses peut-être plus graves, effectivement. Ouais. Et cet album-là, bah, du coup, c'est l'inverse. Mais Harry, là, pour le coup, on a envie
de prendre le contre-pied de l'époque, là, pour le coup.
Voilà. Ouais, plus.
On a rêvé du grand soir et les lendemains ont déchanté. Tout ce qu'on a voulu croire ne s'est jamais réalisé. On a perdu espoir, zombies sur les boulevards. On voulait changer l'histoire, c'est l'histoire qui nous a changé. Mais j'ai gardé l'étendard qu'on agitait sur le pavé. Au fond j'y crois encore, viens je t'emmène à Bonport. Rue de la joie, on vivra entre frères, entre potes. Rue de la joie, on laissera grande ouverte nos portes. Rue de la joie, on rira comme des rois désinvoltes. Tu t'y plairas, viens avec moi. Rue de la joie, il y a les routes de la soie, celles qu'on n'a jamais sillonnées. Il y a les rues de la soif, au gré desquelles on s'est saoulé. Mais je connais mieux comment boire. Si tu m'aimes, ramène-toi. Rue de la joie, on vivra mélangé polyglotte. Rue de la joie, on laissera grande ouverte nos portes. Rue de la joie, on rira comme des rois désinvoltes. Tu t'y plairas, viens avec moi, rue de la joie. À 18 palais, on espère changer le monde. À 40, on essaie de faire au mieux à la ronde. En bas de chez soi, tout commence là. Rue de la joie.
L'album Méhari de Archimède, ce titre suit le précédent qu'on a écouté juste avant, Je singe le monquet. Un peu comme pour le tempérer, dire que finalement, bon, effectivement, il y a des choses sombres, voilà, il y a des choses difficiles dans la modernité actuelle. Enfin, c'est la modernité actuelle d'ailleurs, c'est un petit peu voilà, dans le monde actuel. Et en même temps, il y a aussi des sources d'espoir, parce que même si cette chanson, c'est un peu une chanson de désillusion, rue de la joie, il y a aussi là-dedans un espoir, quoi. Enfin, en tout cas, un sentiment de.
Bien sûr, c'est le refrain évoque une rue utopique en fait, mais voilà, l'utopie, ça fait du bien aussi de temps en temps. C'est effectivement une chanson sur la désillusion dans ses couplets. On a tous cru à des révolutions, on a tous été jeunes, le poing brandi, et puis on s'aperçoit avec le temps que c'est difficile quand même d'opérer ce type de révolution. Mais en même temps, j'aime bien, c'est une chanson contre les extrêmes, notamment contre l'extrême droite dans le refrain, puisqu'il est question d'une rue joyeuse dans laquelle tout le monde se mélange et tout le monde est polyglotte. Voilà. Alors d'aucuns diront ensemble, que c'est politiquement correct,
mais ouais,
comme
ouais.
dirait notre ami Benabar, on va dire qu'on les emmerde, ceux-là.
Oui, voilà, tu chantes ce que tu as envie de chanter.
Oui, voilà. Ouais.
Mais voilà, en tout cas, ça dit cette chanson que la solution, elle est devant nous, en fait. Elle est devant nos portes. Enfin, c'est quelque part, c'est ça.
Exactement,
tout commence
ce qu'on
là,
dit,
en bas de chez soi. Ouais.
Voilà, tout commence là, en bas de chez toi.
C'est le reflet aussi d'une époque, voilà, ce que tu évoquais, la fin des illusions, la fin des idéaux, des utopies, des grandes utopies, en tout cas, de ce qui a pu un moment... dans lequel plein de militants ont pu s'inscrire, notamment le communisme, le socialisme, et puis de l'autre côté aussi le libéralisme ou le capitalisme, dont on sait en tout cas que ça fonctionne pas bien. Et voilà, en fait, où est la voie de passage, sont les solutions. Et en fait aujourd'hui on se rend compte qu'il y a que beaucoup de gens, juste termine cette idée là, on se rend compte que beaucoup de gens leur analyse, c'est finalement les solutions sont pas dans la politique ou dans les élus, mais plutôt dans des actions locales, dans la société civile. Et
exactement, c'est exactement ça, et c'est le propos de la chanson, en fait. Ça recoupe de manière plus simple et plus pop ce que des philosophes comme Michel Onfray peuvent dire, en fait, de travailler dans la proximité. Un mec comme Onfray, il va créer l'université populaire, il va essayer de transmettre le savoir autour de lui à son humble niveau. Je connais pas le bonhomme directement, mais en tout cas c'est le discours qui tient, et c'est le discours dans lequel on peut se retrouver, enfin dans lequel en tout cas moi je me retrouve. C'est aussi le point de vue d'une certaine manière d'Alexandre Jardin, là, ouais. qui appelle les citoyens à vraiment prendre plus de pouvoir. Je pense que c'est important, ça raconte sa rue de la joie, faire le bien à son humble niveau autour de soi, du mieux qu'on peut. Voilà.
Il y a cette phrase qui est assez bien vue, même très bien vue, où tu dis qu'à 20 ans, on veut faire la révolution, et à 40 ans, on veut juste.
Exactement.
On essaie de faire du mieux qu'on peut, quoi.
À 18, balai, on espère changer le monde. À 40, on essaie de faire au mieux à la ronde. Voilà, c'est exactement ça.
Bonne synthèse.
La clé est là. Ouais.
Alors, c'est vrai, tu vous disiez que la tonalité de cet album, alors que j'ai pas malheureusement pu écouter en entier, mais que la tonalité de cet album est plutôt légère. En même temps, il y a dans ces deux chansons-là une vraie position, un vrai regard sur le monde qui est loin d'être détaché, et qui pose quand même une opinion, un point de vue, je trouve.
Mais en fait, dans tous nos albums, on a toujours été dans ce sillage-là. Après, les gens qui en restent à des singles ou aux seules chansons qui sont passées en radio peuvent ne pas avoir...
Mais même dans le bonheur, il y a des vrais messages.
Ouais, dans le bonheur, qu'importe que tu ne sois qu'un loser, sans Rolex ça tombera, l'important c'est ton bras. C'est une phrase forte pour moi, c'est mon punchline. Et ça m'a beaucoup amusé de l'écrire. Mais non, mais en fait, on aime bien vraiment, nous, être toujours sur le fil du rasoir, entre une légèreté très assumée, façon Dutron, façon Nino Ferrer aussi, et en même temps dans quelque chose qui fait sens et qui a une force citoyenne, voilà.
Ouais, une vue aussi de la société dans laquelle on vit, puisqu'on vit dans cette société, donc quand Nico écrit quelque chose, il est concerné, quoi.
Tant qu'à chanter en français, autant raconter quelque chose, vraiment.
C'est jamais le point brandi,
c'est pas du militantisme.
Voilà, mais on est concerné par la société dans laquelle on vit, voilà. Avec les petites mains, par exemple, il y a eu plein de chansons qui sont
dans
ce registre, ouais.
Et je t'aime low cost, quelque part, même si là on l'entendra, la tonalité, la couleur est plus légère, plus détachée, plus sautillante, en filigrane. Ça raconte aussi quelque chose de notre monde.
Qu'on peut s'aimer d'amour aussi,
quand on n'a plus rien, voilà. Quand on n'a plus de sous, quand on est fauché comme les blés, on peut encore aimer et trouver l'amour. C'est ça, je t'aime low cost.
Je t'emmènerai bien en lune de miel aux Canaries. Je t'offrirais carrément la lune si j'étais Qatari. T'en mériterais des bouts du monde et des coins de paradis. Mais pour un resto, faudrait que je contracte un crédit. Je casserais volontiers mon pas de laine pour te témoigner combien je t'aime, mais j'en ai pas. Je t'aime low cost, oh mon amour, pardonne-moi. Si l'on convole sur EasyJet, si je mets les petits plats dans des petits plats, reste je regrette. Faut pas compter sur moi pour les week-ends dans la poudreuse. Les spas, les palaces et les chambres d'hôtel onéreuses. Dis-toi que le jour viendra où tu nous verras dîner aux chandelles. Quand on m'aura coupé le courant après tant de rappels. Aussi vrai que l'amour nous transporte, c'est en Logan modèle trois portes. Ne m'en veux pas, je t'aime low cost. Oh mon amour, pardonne-moi. Si l'on convole sur EasyJet, si je mets les petits plats dans des petits plats. Je t'aime low cost. Oh mon amour, pardonne-moi. Tu n'iras jamais dans un trench en alpaga. Je t'aime low cost, je regrette.
Je t'aime low cost, Archimède, qui sera le single de, qui sera le single de l'album, le premier single en tout cas qui sera diffusé. Alors peut-être là, on a déjà un peu parlé du fond de ce morceau-là, parler un peu de la musique. Il y a eu un choix clairement de donner une couleur électro à ce morceau-là, avec avec un pied basse voilà qui rythme l'ensemble du morceau. Une sorte de solo de guitare électrique voilà, un peu cheap, très, très héroïque.
Ouais.
Et voilà, avec un côté cheap, effectivement. Pour faire écho aussi, peut-être, justement, aux paroles. Je ne sais pas comment... Quels ont été le choix de
ces arrangements. C'est plus des arrangements de...
Si, si, mais c'est vrai. Il y a
se marrer, quoi. Au début, on y a même pensé de faire vraiment la chanson low cost, genre.
Oui, c'est ça.
Elle a chanté avec une guitare à trois cordes,
ouais,
avec un bout de carton.
Ouais, ouais, c'était. Ça, c'était
mais
c'est
bon,
une bonne idée.
Ça aurait pu marcher. Mais bah ouais, dans la démo de la petite prod que j'ai fait à la maison, ça, c'était un peu ça, quoi. Il y avait du pied basse, quelques synthés. Et puis je sais pas comment est venue l'idée du solo, c'est toi en studio qui a balancé cette idée.
Un solo low cost, ouais. Mais je suis super client de ce genre de solo. Moi, il m'amuse beaucoup ce solo.
Il y a du second degré ou...
Oui, voilà, oui, bah, ouais. C'est plein de. Ouais,
tout à fait.
De toute façon, cette chanson, elle est hyper
second degré.
Donc ça collait plutôt bien dans la prod. Et après, par contre, le côté pied, le côté un peu électro et tout. On l'a pas fait du tout en imaginant que ce serait le premier single. On était nous-mêmes surpris que notre promo et les radios plébiscitent ce titre-là plus qu'un autre. Nous, on aurait pas préférablement, mais on aurait plutôt imaginé que Rue de la Joie serait le single, la chanson qu'on a écoutée juste avant. Mmh. Mais il se trouve que c'est Je t'aime low cost. On nous dit tout le temps les radios, il faut pas trop de guitare et tout. Bah pour le coup, nous on s'est lâché sur ce titre et c'est celui qui a priori a plu donc. C'est amusant.
Sur vos précédents albums, enfin en tout cas les deux premiers, vous aviez travaillé avec le même réalisateur, Philippe Paradis.
Mmh.
Ensuite, sur l'album suivant, vous aviez changé d'équipe. Vous aviez travaillé avec un groupe d'arrangeurs, en fait.
Un
collectif d'arrangeurs.
Ouais, Albert.
Voilà,
ouais.
Exactement. Et en fait, là, pour ce nouvel album, vous avez à nouveau changé de collaborateur ou vous poursuivez ce travail avec ce collectif d'arrangeurs?
Non,
comment vous avez travaillé, en fait?
On a changé, en fait. On a travaillé avec l'équipe d'Aldebert.
D'accord.
Qui est devenu un pote. On a chanté sur son deuxième album, Enfantillage,
ouais.
La chanson Taxidermiste. Et puis, bah, au fur et à mesure du temps, on est devenus copains. Et puis à un moment donné, bah, on se dit, on parlait de ce quatrième album, etc. Et il nous dit, ah, mais nous, ça nous plairait de le réaliser, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut faire des essais sur des maquettes que vous avez à la maison, on fait des pré-prod. Et puis, bah, on a fait l'essai sur, je sais plus, 2-3 titres.
Je singe le Monkey, notamment. Ouais.
Et puis, je sais plus quoi. Ils ont bien bossé. Enfin, on s'est retrouvés dans ce qui. Ils écoutent les mêmes choses que nous. Donc, inévitablement, ça match à un moment donné. Et voilà, on s'est laissé embarquer dans le truc et on est super content, quoi.
C'est quoi le travail d'un arrangeur, d'un réalisateur concrètement pour un béotien? Qu'est-ce qu'il apporte aux chansons?
Alors, c'est deux métiers différents. Le réalisateur, lui, il a plus une vision du son, de la couleur de l'album. Et après, il peut faire appel à un arrangeur pour écrire des arrangements. Là, en l'occurrence, eux, ils ont fait un peu les deux avec moi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait de réalisation, mais j'ai travaillé sur des arrangements avec eux. Mais les arrangements, c'est plus les parties musicales écrites que le réalisateur, lui, met plutôt en image sonore le disque. Donc voilà, après, ce qu'ils ont apporté, bah, c'est un son.
C'est difficile, le son. Et puis, même les voix, enfin, le juste équilibre, le mix, c'est un vrai travail. Fred a plus de capacité sur ce point dans la production que moi. Mais on n'est pas ni l'un ni l'autre, on n'est pas suffisamment avancé, lui beaucoup plus que moi, Fred, mais c'est vraiment un métier quand même, la réalisation.
Ouais.
Vous avez besoin de cet apport-là.
Ah ouais.
Bah, peut-être qu'un jour on saura s'en passer, mais il me semble que.
Non, mais et puis c'est aussi intéressant d'avoir une autre oreille, parce que quand on est dans notre truc, nous, on peut se gourer. Hein. Y a des titres, des fois, qui prennent une bonne gifle.
De filer les clés du camion, ouais. Voilà. Ça fait jamais de mal. Faut être humble. Nous, on est songwriter, on écrit, on compose.
On a un ressenti, et des fois, le réalisateur, il va dire, bah non, cette chanson-là, plutôt que la faire ternaire, on va la faire binaire. Puis, il nous propose un truc, et on dit, ah ouais, putain, ouais, génial, quoi.
Et des fois, on dit non aussi, évidemment.
Il y a l'œil extérieur, voilà. Enfin, cette personne qui va apporter une prise de recul sur les chansons, qui va pouvoir vous permettre de faire des choix. Et puis, voilà, au-delà de cet œil extérieur aussi, peut-être, c'est une source de renouvellement, de travailler avec des gens différents qui vous amènent aussi d'autres couleurs, d'autres univers, d'autres idées. Est-ce que ça contribue aussi?
Mais vraiment, sur ce disque-là, c'est presque l'amitié qui a prévalu, en fait. On est devenus vraiment copains. C'est des gens très simples qui viennent de la province comme nous, mais de l'autre côté de la France, de Besançon. Et on s'est retrouvés, on a des valeurs communes de simplicité, d'humilité. Et pourtant, Aldebert, ça cartonne, hein, ça fait des zéniths partout en France, ça vend 100 000 albums. Mais c'est des mecs vraiment... cool, quoi, qui enregistrait l'album cet été en short, on faisait des barbecues le soir, et c'est pas voilà, c'est,
mais
y a
c'est
pas
aussi
parisianisme,
c'est aussi d'excellents musiciens,
bien sûr. Mais à la base, on a décidé de leur faire confiance parce qu'on était copains. Ils ont fait l'essai et on a trouvé que ça matchait.
Si l'essai avait été pas concluant, on aurait dit bon bah restons bons amis.
Mais en fait, la vie a fait que vous avez rencontré ces gens qui finalement deviennent des collaborateurs hyper compétent pour vous, qui conviennent complètement à ce que vous voulez faire, donc c'est parfait.
Et Philippe Paradis voulait faire le troisième, voulait faire le quatrième, on est toujours en excellent terme avec lui, mais il comprend, même son ancienne compagne Zazie, elle était avec lui, elle a pas fait son avant-dernier album avec lui, alors qu'il a fait tous les précédents.
Il aurait probablement fait un album génial, il aurait été avec lui cet album, qu'il aurait sûrement été parfait, mais c'est bien effectivement de changer d'air, en fait.
C'est en ça que je parlais de renouvellement tout à l'heure, et je reviens là-dessus. Est-ce que, ça fait 13 ans que le groupe existe? C'est votre quatrième. Tout à l'heure, ça m'a fait bizarre aussi quand j'ai calculé. Et quatrième album, c'est quand même pas un début de carrière non plus. Comment vous voyez justement cette période-là? Comment vous voyez comment c'est facile ou pas de se renouveler, de pas rester dans des recettes ou des ficelles que vous avez pu expérimenter, voilà. Est-ce que c'est des questions que vous posez d'abord, ou finalement les choses avancent et ça vous vient, ça vous...
C'est des questions qui peuvent être un peu vertigineuses quand on se les pose. Ça peut mettre un peu mal à l'aise. C'est vrai qu'au bout de 13 ans, on est censé, quand on est artiste, se répéter, quoi. Donc peut-être qu'on préfère pas se les poser. Certainement, on se répète. Certainement, il y a des thèmes qui recoupent des thèmes déjà traités dans les précédents albums, mais on fait vraiment, on s'enferme à chaque fois pendant un an et demi, deux ans pour écrire, composer. Enfin, on a l'impression, nous, de soigner entre guillemets notre œuvre, notre œuvrette. Même si on fait de la pop, même si on est dans le divertissement, on travaille dur, quoi, pour pas lasser.
De toute façon, un artiste, il a un style, un peintre, il a un style. un écrivain, il a un style, un chanteur, il a un style. Quand tu vois Brassens, tu as beau écouter toute sa discographie qui est fabuleuse, mais dès les premières notes, tu sais que c'est Brassens. Cabrel, c'est pareil. Voilà, il y a forcément une... Et c'est ça la force, justement, c'est l'identité des artistes. Donc, on peut nous reprocher quelquefois de faire un peu la même chose, de tourner un peu en rond, mais on va pas faire de la bossa nova ou du punk quand c'est pas notre, notre registre. Et il faut savoir ce qu'on sait faire. L'autre fois, tu m'as fait la réflexion, une équipe qui est forte en foot, elle fait pas du hand, hein. Elle continue le foot.
C'est aussi un gage de crédibilité. C'est-à-dire, on peut nous aimer ou pas, mais on a toujours tracé notre, notre
pas la girouette
dans le même sillon. Ouais, non,
qui suit les tendances.
Non. Nous, on chante, on continue de chanter en français, on fait de la pop, on est dans quelque chose d'assez, d'assez entraînant, volontairement.
On en prend toujours du plaisir, donc c'est bien.
Alors, pour terminer cette émission, un dernier titre du nouveau disque et que vous allez nous interpréter en direct live dans une version acoustique. Hein, le batteur et le bassiste ne sont pas venus.
Non.
Un titre que je vous laisse nous présenter peut-être, qui s'appelle Fils de.
Fils de, ouais, fils de, c'est fils de Gérard Boinard en l'occurrence, si on termine la phrase. Notre père s'appelle Gérard Boinard, c'est un nom déjà qui donne envie de faire une chanson. C'est à la fois un hommage au paternel et en même temps une critique amusante de l'oligarchie. C'est-à-dire, il y a quand même beaucoup de fils de dans notre société, aussi bien dans les industries que
dans le cinéma.
Toutes sortes de. Ouais, voilà, dans la musique, c'est pareil. Et donc, on trouvait amusant de traiter de ce thème. Encore une fois, sous des modalités humoristiques et sans être non plus trop arrogant. Mais bon, on ne se prive pas quand même de bien tacler. Hein.
Voilà.
Elle nous amuse, ce titre.
Ok, on vous écoute, donc, Fils de, dans Transistor l'émission.
En tant que fils de Gérard Boinard, j'ai pas tellement pignon sur rue. Moi les Césars, moi les victoires, j'peux toujours me les mettre au. Être fils de, ça touffe des boulevards. Moi j'suis qu'une petite voix sans issue. Si j'étais le fils de Jacques Audiard, je serais peut-être un peu plus connu. Être le fils de Gérard Boinard, quand tu travailles avec ta glotte, j'dirais pas que c'est la mer à boire. Mais faut quand même aimer la flotte. T'as le carnet d'adresse d'un tricard. Dès que tu veux écrire pour les autres, faut t'inventer des tas d'histoires pour plaire aux chanteurs de la haute. Être le fils Gérard Boinard, y'a plus glamour comme étendard. Si j'étais le chérubin d'Igelin ou Jacques Dutron, j'aurais le bras long. Si Johnny m'avait donné le sein, si Shelley était mon daron, j'aurais des comités de soutien dans leur cérémonie. Bidon, on me ferait même des pieds et des mains pour que je vienne à la télévision. Être le fils Gérard Boinard, y'a plus glamour comme étendard. Être le fils Gérard Boinard, ça pèse pas lourd de me faire valoir. Être le fils de Gérard Boinard, c'est comme naître dans un trou perdu. En l'espèce, je suis cumulard. La double peine est entendue. Pardonnez ce réquisitoire. Désolé s'il vous a déplu, mais grâce à moi, Gérard Boinard n'est plus tout à fait inconnu. Être le fils Gérard Boinard, y'a plus d'amour comme étendard. Être le fils Gérard Boinard, ça pèse pas lourd comme faire valoir.
Oh, pardon. fils de, j'avais pas prévu le coup de guitare final. Voilà, fils de, un titre qu'on retrouvera sur le 4e album de Archimède. Bravo les gars, bravo, parce que on est dans les conditions un peu rudimentaires du studio de l'autre radio. Ah, l'autre radio, ne prenez ça surtout pas mal. Le non, studio non, est nous, génial, mais par contre,
c'est très bien. Nous-mêmes, on l'a fait à l'arrache. C'est très bien comme ça.
Ouais, mais voilà. Par contre, voilà, effectivement, on n'est pas dans un studio d'enregistrement avec une condition acoustique démentielle. Donc, bravo. On sent le métier. Bravo.
Merci.
Peut-être parler un petit peu quand même aussi de l'album en tant que tel, de tout l'entourage professionnel qu'il y a autour, parce qu'un album, on le sort jamais tout seul. Là, c'est le premier album, votre 4e, qui sortira, il ne sortira pas avec Sony Music, puisque jusqu'à maintenant, vous aviez publié vos disques sur cette maison de disques-là, avec cette maison de disques-là.
Il sort chez Sony Music.
Ah, d'accord, pardon.
Non, alors, il sort
il y a quand même un changement.
Voilà. Ouais. C'est-à-dire, on n'est plus chez Jive Epic, mais on est dans.
Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Ouais, on fait une mise au point.
En fait, Sony Music, c'est une maison de disques. Dans une maison de disques, il y a plusieurs labels.
Ouais, voilà.
Il y a deux labels phares chez Sony Music qui s'appellent Jive Epic et Columbia. Et Sony Music, par ailleurs, travaille avec des labels comme Smart, Un Plan Simple, en l'occurrence le nôtre qui s'appelle Little Big Music. Et c'est des, alors c'est pas des sous-labels au sens strict, mais c'est des plus petits labels qui travaillent sur des identités.
Des labels indépendants.
Ouais, des labels. Bah, pour quelque le coup, part. Non, ils oui, sont plus indépendants plus puisqu'ils sont distribués chez Sony et commercialisés via Sony. Mais donc, on reste dans la maison disque Sony Music.
Une sorte
d'ailleurs,
de filiale,
notre...
quoi, en fait.
C'est ça. C'est des micro-labels en fait. Internes. Mais par exemple. Aldebert, il est chez Little Big.
Mais il n'a pas le même contrat que nous. En fait, là, pour le coup, on n'avait pas de directeur artistique ni rien. On a fait les chansons entre nous, sans qu'il y ait quelqu'un qui soit.
C'est ça le changement, en fait, de logique quand même.
En fait, pour tout raconter, ce qui est très amusant, c'est que si on rentre un peu dans le détail, Sony nous proposait la réalisation d'un 4e album, mais nous demandait nos éditions.
Dans le contrat, c'était pas intéressant pour nous.
Et les éditions, voilà, c'est tous les droits d'auteur et tout, et nous, nos éditions, on les récupérait pour la première fois, parce qu'avant, on avait un éditeur. Et donc, on a enregistré. Cet album donc dans un plus petit label qui travaille chez Sony Music et voilà mais du coup on retrouve en ayant gardé nos éditions notre équipe d'avant, on travaille toujours avec notre chef de projet chez Sony qui va s'occuper de la distribution, qui organise encore sur cet album la tournée des prochains showcases dans les espaces culturels, dans les FNAC et tout, donc on reste sous une modalité de contrat différente mais dans le même bateau quoi, avec les mêmes gens.
Avec une marge de manœuvre un peu plus large, j'ai l'impression. Enfin, dans ce que tu disais.
On a été un peu plus libre.
On n'a jamais été. Vincent, il le faisait, il le cachait bien.
Mais, c'est ça, vous ne rendiez pas compte.
Ouais, peut-être. Non, mais en fait, il y a. Vincent Blaviel, qui était notre directeur artistique, qui est toujours un pote avec qui on a plaisir à se retrouver, nous conseillait, nous orientait, nous était le premier à écouter les chansons et nous disait il y a un truc à faire, etc. Il nous proposait des choses qui nous ressemblaient évidemment, puisque c'est pareil, c'est un choix du cœur. Il y a 10 ans, quand on a signé, c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a signé chez Sony en contrat d'artiste, il nous avait suivis partout, il nous avait vus en concert 1000 fois.
Il y a une vraie confiance, quoi.
C'est un choix du cœur, c'est pas un choix financier ou d'intérêt ou quoi que ce soit, c'est vraiment le choix, parce que le mec, on savait ce qu'il allait nous proposer, dans quel studio il allait nous emmener et avec quel réalisateur il allait nous proposer de travailler, ça allait nous correspondre. Donc
on est ravis de rester chez Sony à ce titre-là. En fait, on n'a jamais eu le sentiment de se travestir ou de devoir faire des chansons pour qu'elles passent en radio. Nous, spontanément, de toute façon, on est dans une culture
Beatles,
le côté allant, allègre. Donc,
refrain qu'on retient, les trucs assez simples avec... ce petit décalage,
ce petit twist.
Ouais.
Les twists. Du texte, quoi, justement.
Le côté un peu décalé, des gingandés. Mais en tout cas, chez Sony, il va sortir, du coup, dans toute la France grâce à cette maison de disques, quoi.
Et comme je le disais tout à l'heure, il sortira le 7 avril.
7 avril.
Et. Vous réservez toujours la primeur de vos concerts à Laval, puisqu'il y aura deux concerts qui suivront le 8 et 9 avril. On peut toujours réserver sa place, j'imagine.
Il faut aller vite, le samedi soir, c'est presque complet.
D'après les derniers points billetterie, ça part bien. On est vraiment content, quoi, de voir que les Lavallois nous renouvellent leur confiance. J'ai l'impression de parler comme un futur maire.
Gaffe.
Il va finir maire de la Vallée.
C'est un côté vraiment sympathique, ouais, de continuer d'être plébiscité.
D'être soutenu,
quoi.
Ouais.
Les gens étaient venus nous voir. Le dernier concert qu'on avait fait, gros, à Laval, c'était à l'Hippodrome. On avait eu 2-3 000 personnes. Et là, il est possible qu'on recrée une troisième session au vu des réservations qui vont bon train, quoi.
C'est génial. Donc,
on est content. Ouais. Ça veut dire que les gens, on se fout pas de leurs pommes s'ils reviennent.
Non, et puis c'est pareil. On leur fait tout le temps le cadeau du démarrage de tournée. Ça, c'est important. Avec aussi quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est de faire des prix d'entrée parce qu'on pourrait vendre beaucoup plus cher. En se disant, ouais, on est de Laval, c'est facile, etc. Et c'est souvent, et malheureusement, le discours qu'on nous tient à Paris. Mmh. Et nous, on est hyper vigilants là-dessus. On dit non, on veut faire un cadeau aux Lavallois, qu'ils aient le budget de venir en famille, à 4, à 6, même à 30, 40, 50 bornes, qu'ils puissent se déplacer.
C'est combien le prix? 80
c'est 12 euros
la place, quoi.
Ah, évidemment,
c'est vrai que
12 euros. 12 euros et moins de 25 ans, 6. Donc c'est bien.
Et pour des groupes de 10, c'est 10 euros la place. Et c'est vrai que c'est pas cher. Quand on joue, par exemple, cet après-midi, on bossait sur Nantes et Bordeaux, c'est 20 euros la place, quoi. Mmh. Ici, localement, alors qu'on pourrait vendre les billets plus chers, parce qu'on a toutes nos familles et tous nos...
La
basse fan,
c'est clair. Et
non, mais c'est vrai qu'on a cette politique. C'est pas des magots. On fait vraiment en sorte de pas faire payer les entrées trop chères, quoi. Et puis l'équipe du théâtre nous accompagne vachement sur cette logique.
C'est vraiment une belle équipe.
On s'entend bien. Ouais.
Et les autres dates, est-ce qu'on peut annoncer déjà un peu
Bien sûr. Alors, on les a pas en tête.
Les contours de cette tournée qui arrive.
Angers le 18 mai,
ouais.
Bordeaux le 8 juin, Nantes.
Paris le 4 mai,
Paris,
Nantes le 3.
Mai, Nantes le 3 mai.
On est du côté de Clermont-Ferrand fin avril.
Ouais, à Rion, avril.
Ça se lance, on a deux dates, le 8 et 9 avril, et ça se lance vraiment à partir du 29 avril.
Dinard, le 23
juillet.
Mars. On annonce.
Ça se dessine bien, cette tournée. Vous êtes plutôt content de. Voilà,
ouais,
de...
plutôt bien. Et là, on annonce une quinzaine de dates sur nos réseaux d'ici le milieu de semaine. Donc voilà, si les gens veulent avoir toutes les dates partout en France, les premières, évidemment, c'est un premier calendrier. Une quinzaine de dates, donc 4 festivals.
On est encore tôt, hein, on est à presque un mois et demi de la sortie de l'album. Il n'y a pas encore une installation radio de tout ça, donc c'est plutôt de bon augure d'avoir déjà entre 15 et 20 dates d'annoncer.
On fait les grandes villes.
Ouais,
on fait Metz, Lyon, Angers, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes.
Marseille, Lyon, Nantes,
non,
Marseille, Bordeaux. T'as répété deux fois
les grandes villes.
Non mais ouais, on fait une quinzaine de dates, en fait une première salve qui est intéressante.
C'est prometteur.
Bah ouais, on espère que ça va nous emmener comme à chaque fois.
Jusqu'en Russie.
Nous porter haut.
Après l'international, on le boude pas, mais c'est pas notre...
C'est toujours un bonus.
Ouais, voilà, c'est du plus, ouais. Après, le tourneur nous envoie tout le temps dans des régions un peu reculées. C'est pas ce qu'il...
Amérique centrale ou Ukraine. Ouais. J'ai l'impression parfois qu'il veut se débarrasser.
Ouais, c'est
histoire qu'ils reviennent pas.
Ouais, ça fait un peu peur. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup Nicolas et Frédéric d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Merci Nico, merci l'autre radio.
Merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Vincent signait la réalisation de cette émission, à réécouter en podcast sur transistor.org. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, qu'à vous dire à très bientôt. On se retrouve le 13 avril pour une émission Transistor qui sera en direct live de l'avant-scène à Laval, avec notamment Whisper Night and the Ramones Project. À bientôt.